Gloire à Dieu, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir recevoir ta parole. Nous prions pour que tu disposes nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions la recevoir avec empressement et avec humilité, Seigneur, pour être transformés par elle au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc chapitre 23 à partir du verset 39. C'est une des scènes qui est déterminante dans la mission de notre Seigneur Jésus qui s'est donné à la croix pour mourir pour tous les humains. Et alors qu'il est à la croix, se déroule une scène, un échange entre Jésus et les malfaiteurs qui sont avec lui. On dit au verset 39, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, je lis cette même scène dans la version « Parole de vie ». Un des bandits, le même verset, hein, 39 à 43, un des bandits cloué sur une croix insulte Jésus, disant, « Tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. » Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant, « Tu es condamné à mort, comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Ensuite, il dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, il y a une phrase qui attire mon attention dans la version Parole de vie. Lorsque le deuxième brigand reprend son ami, il lui dit, « Tu es condamné à mort comme cet homme et tu ne respectes même pas Dieu. » Le thème de notre exhortation ce matin, c'est le respect pour Dieu. Vous respectez Dieu. Vous savez, bien aimé, il y a des situations dans lesquelles on peut se trouver, des situations qu'on peut estimer injustes, dures. On a l'impression que Dieu nous abandonne. Et même plus que cela, que Dieu est contre nous. Et vous voyez, ces deux personnes réagissent différemment. On dit le premier, l'insulter. Il se disait, perdu pour perdu. Alors on y va à fond. Mais en même temps qu'il insulte le Seigneur, il espère quand même une clémence, être sauvé. Vous voyez la contradiction de l'homme. Il insulte le Seigneur, mais en même temps, il espère être sauvé par lui. Et le deuxième bandit lui dit, « Attends, mais tu es condamné à mort. » Donc en réalité, il n'y a plus que la mort qui t'attend. Mais non seulement cela, c'est une mort qui est méritée pour le mal que tu as fait. Et il dit à son ami, respecte au moins Dieu pour le peu de temps qui te reste à vivre et au moins du respect pour Dieu. C'est ça notre exhortation, bien-aimés. le respect pour Dieu. Je regardais dans le dictionnaire le mot respect. Alors, il y a beaucoup de définitions, mais je retiens une qui dit que c'est un sentiment qui consiste à accorder une considération à quelqu'un à qui on attribue une valeur. C'est ça le respect. Une considération pour une personne à qui on attribue une certaine valeur. Les deux étaient dans la même situation, mais le second, à un moment donné, il est pris par l'esprit de repentance. Il dit à son ami, aie au moins du respect pour Dieu. Combien de personnes nous ne voyons pas, bien-aimés? Vous savez, faire le cador devant les gens, c'est une chose. Mais quand on est tout seul, est-ce que la réalité est la même? Moi, je me rappelle quand on était à l'école, parfois avec les amis, ou dans la classe, lorsque le prof rend les copies, on dit que le premier a 7 sur 20. Et parfois, le premier a travaillé dur et il a eu 7. Alors toi, tu as peut-être 2 sur 20, mais vous savez, la politique du crabe, c'est qu'on se... On se conforte, comme il y a une maxime en français qui dit, hein, « Quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, ça me rassure. » Et l'homme est comme ça, ouais, tu as 2 sur 20, tu dis « Mais j'ai mal travaillé. » Mais quand on te dit « Le premier n'a que 7 », ah bah tu dis « Bon, il n'y a que 5 points d'écart, c'est pas mal. » Mais en réalité, tu as échoué. Mais vous savez, quand on est ensemble, on rentre à la maison, on est tous ensemble... On a tous 5, 3, 2. On s'encourage entre nous. Hein. Mais vous savez, quand tu prends la porte de la maison, ah ben là, je peux te dire que tu n'es plus avec tes camarades. Hein. Tu rentres tout seul. Parfois, quand tu donnes la copie aux parents, tu dis, oui, mais le plus intelligent a eu 7. Le prof était méchant, hein, il a saqué tout le monde. Mais vous savez, ça, ce n'est pas le problème des parents. Mais c'est souvent comme ça qu'on est. Et là, cet homme se met en spectacle, puisqu'on n'a pas lu avant, les soldats se moquaient de Jésus, l'insultaient, le frappaient. Ils disaient, allez, devine, qui c'est qui te frappe? Puisque tu es Dieu, tu dois tout savoir. Et dans cet élan-là, le premier brigand continue à surenchérir. En disant, mais tu es prophète? Tu as ressuscité les morts. Tu as fait des grandes choses. Tu as prouvé que tu étais le Fils de Dieu. Tu as fait du spectacle. Maintenant, l'heure est venue. Montre maintenant qui tu es. Et le second lui dit non. Aie du respect pour Dieu. Aie de la considération pour Dieu. Bien-aimé, c'est ça que nous voulons partager. Avoir du respect pour Dieu. Mon premier point, c'est considérer qui est Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Créateur de toutes choses. Tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé. C'est ça, bien-aimé. La Bible nous dit au commencement, Dieu dit, Dieu a tout créé par sa parole. Alors que tu le veuilles ou pas, que tu sois d'accord avec ça ou pas, ça ne change pas le fait que Dieu est Dieu. Vous savez, on est en France et on a eu tout mouvement de contestation, vous savez, lors du premier mandat du président Macron. Mais est-ce que ça a changé le fait que le président est toujours président? Il est toujours président. Mais même plus que cela, il a été élu, réélu. Donc ta colère à toi, gilet jaune, bonnet rouge, tout ce que tu veux, il y a eu même les trucs violets ou... peu importe ton mouvement de contestation, ça ne change pas qu'il y a une hiérarchie. Et que le président est président. Et qu'il ne suffit pas de manifester pour le détrôner, puisqu'il y a une constitution qui encadre la législation. Alors, vous imaginez, là, on parle d'un humain. Mais imaginons maintenant le Dieu créateur. Tu as beau bouder comme tu veux, Dieu est le créateur. Et quand on dit créateur, c'est que le souffle de vie que nous avons vient de lui. La force que tu as pour contester Dieu, c'est lui qui te la donne. L'intelligence pour dire « Dieu n'existe pas », c'est lui qui donne. Bien-aimé, vous savez qu'il suffit qu'il y ait une lésion cérébrale. Tu ne seras même pas en mesure de dire même « Dieu ». Tu ne seras pas en mesure de le dire. Donc le fonctionnement du cerveau qui te fait dire que Dieu n'existe pas, mais c'est Dieu qui te le donne. C'est ça, bien-aimé. Je voudrais qu'on comprenne, quand le bandit dit à son ami, mais tu ne crains pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu. Là, le temps de bêtises, d'enfantillage est terminé. Là, c'est du sérieux. Là, on va mourir, on est face à Dieu. Alors, aie au moins de la déférence. Aie au moins du respect. Que tu meurs encore en colère au fond de toi, puisque les bourreaux t'ont attrapé, te crucifient, c'est une chose. Mais tu rajoutes à cette peine que tu as déjà, l'offense faite à Dieu. Vous voyez ce que ce brigand est en train de dire à son ami? Mais là, tu vas trop loin. Que tu sois en colère, c'est une chose. Mais de là à t'en prendre à Dieu, le seul même qui peut te venir en aide, le seul qui peut t'accorder une grâce à la fin, même si tu meurs, que tu puisses te retrouver auprès de lui. Alors il dit à son ami, il se retourne, il dit à Jésus, « Seigneur, contrairement à mon ami, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » C'est ça, bien-aimé. Dieu est amour. On voit là ce que Jésus manifeste à cet homme qui s'humilie. Considérons cela, bien-aimé. Dieu aime tous les hommes. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et vous savez, un tel amour ne peut susciter que du respect. Quand je dis Dieu est amour, je mets toutes ces qualités qui sont liées à l'amour. La miséricorde. La longanimité. La longanimité, peut-être que certains ne connaissent pas ce que ça veut dire. C'est la capacité à faire, à agir pour faire le mal, mais l'amour te retient, te repousse pour ne pas agir en espérant que l'autre se ravise. Voyez, bien aimé, qui est Dieu? Combien de fois entre nous, on t'a fait du mal et t'aurais voulu être tout puissant pour régler le compte de l'autre en face de toi? Mais Dieu, lui, il a cette capacité, mais il se retient. Vous savez, c'est comme un lion devant un mouton qui fait des grimaces, le lion est là. Vous savez, il suffit juste qu'il mette un coup de patte, hein. C'est tout. Hein. Avec ses griffes, il met juste un coup de patte, c'est terminé. Et quelquefois, on voit des images des lions avec un animal qui s'agite. Le lion, il le regarde. Il ne réagit pas. Parfois, il est allongé. Il ne réagit pas. C'est ça, bien-aimé, la longanimité. C'est ça, notre Dieu, bien-aimé. Notre Dieu est le Dieu qui pardonne. Ce brigand a fait du mal, au même titre que son ami. Mais à l'instant même, il a été pardonné. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça mon premier point, bien-aimé. Considérons qui est Dieu. Quelquefois, nous sommes dans... Je vais employer un terme un peu barbare. L'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait d'humaniser Dieu. De considérer que Dieu est... comme un humain devant qui on peut bouder. Bien-aimé, Dieu est beaucoup plus grand. C'est ce que le brigand dit à son ami. Il dit non, ne va pas là. Aie au moins du respect. Qu'il te reste au moins ça, parce qu'on t'a tout pris. On t'a pris, vous savez, ils étaient crucifiés, presque dévêtus. Donc tu n'as même plus d'honneur. Donc on t'a tout pris, on t'a pris ta dignité. Mais le brigand dit à son ami, garde au moins une chose que tu peux garder, le respect pour Dieu. C'est ça, bien-aimé, notre pensée de ce matin. Dieu est omniscient. Dieu sait. Dieu connaît tout. On ne peut rien lui cacher. On ne peut rien dissimuler. On ne peut pas tromper Dieu. On se rappelle d'Ananias et Saphira qui ont vendu leur champ faisant croire et viennent donner l'argent, faisant croire que comme les autres chrétiens ont fait des choses, bah nous aussi on peut le faire. Et Pierre dira à ces hommes, à ce couple, pardon, mais pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Pourquoi vous mentez à Dieu? C'est ça, bien-aimé, notre exhortation d'aujourd'hui. Dieu sait tout. Il savait même tes pensées. Ce que tu penses pendant que je parle là de Dieu, Dieu, lui, il le sait. Vous savez, un jour, les gens viennent avec leur ami paralytique dans Marc 2. Ils passent par le toit. Ils arrivent au niveau de Jésus. Jésus dit à leur ami, il est écrit, voyant leur foi, il dit à l'homme alité, tes péchés sont pardonnés. Les gens se disent, oh, ben voilà. Ben voilà encore. Il se prend pour qui? Pour pardonner les péchés. Mais sous-entendu, de toutes les façons, c'est que des belles paroles, puisque tes péchés sont pardonnés. Vous savez, ça ne change pas, ça ne se voit pas. Mais Jésus, connaissant leur cœur, il dit maintenant à haute voix à ces gens, mais pourquoi vous vous offusquez? Qu'est-ce qui est plus dur? De dire, lève-toi et marche, ou de dire tes péchés sont pardonnés? Il dit maintenant, pour vous montrer que j'ai tout pouvoir, il dit à l'homme, lève-toi et marche. C'est ça, bien-aimé. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. On l'a dit, il est tout-puissant. Dieu est omniprésent. Il est partout. C'est ça la capacité de Dieu, bien-aimé. Et tout ce que nous disons sur Dieu, bien-aimé, ça doit susciter en nous un profond respect pour qui il est. C'est ça, bien-aimé. Mon deuxième point, c'est qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire avoir du respect pour Dieu? On a dit le premier point, c'est dire qui Dieu est, décrire ses qualités. Deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire avoir du respect pour Dieu? Nous lisons Luc au chapitre 18. Nous ne sommes pas loin. Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18, c'est l'histoire du publicain et du pharisien. Nous lisons verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le publicain debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. » Je vous le dis en vérité, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Deuxième point, quand on a du respect pour Dieu bien-aimé, on entre dans sa présence avec respect, bien-aimé. Quand on a conscience de Dieu, on n'entre pas dans sa présence, bien-aimé, comme au moulin. Vous voyez les deux hommes. Le pharisien qui est dans la présence de Dieu, mais c'est une formalité, c'est un homme correct. Vous voyez, il parle à Dieu comme s'il parlait à un ami. Il parle à Dieu comme s'il parle à quelqu'un de familier. Puisqu'il a l'habitude d'être dans la présence de Dieu, entre guillemets. Puisqu'il a l'habitude d'aller au temple. Quand je dis dans la présence de Dieu, c'est au temple. Mais bien aimé, tu peux aller au temple sans être réellement dans la présence de Dieu. Tu peux venir au culte par formalisme religieux. Mais sans être dans la crainte respectueuse de Dieu. Sans en tirer bénéfice. Puisque Jésus nous dit quoi? Quand tu viens dans la maison de Dieu, le but c'est que tu en tires bénéfice, que tu profites de Dieu. Puisque, pourquoi il pose la question à la fin? Qui a été justifié? Le but de Jésus, ce n'est pas de dire, quand tu viens dans la maison de Dieu, fais la plus belle prière. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Fais le plus beau sacrifice. Comme j'écoutais un faux prédicateur de la prospérité qui fait la différence entre l'offrande et le sacrifice. Mais bien aimé, ils ont des théories qui sont tellement fumeuses. Mais quand tu entends ça, tu dis waouh. D'où ils reçoivent ces révélations-là? Mais tu as beau faire le plus beau sacrifice que tu veux. Mais si il n'y a pas l'obéissance, on se rappelle hein, ce que Samuel dit à Saül. Hein, il dit Dieu prend plaisir à l'obéissance, au sacrifice. Quand on a du respect pour Dieu bien-aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu considères qui il est. Vous voyez le deuxième individu, le publicain. On dit qu'il n'osait même pas lever les yeux, il n'osait même pas en quelque sorte s'approcher de Dieu en disant « Mais Seigneur, je suis un homme pécheur. Je suis un homme mauvais. » Quand on a du respect pour Dieu, bien-aimé, on considère la nature de Dieu. On vient, bien-aimé, ce que j'ai écrit, dans un état de remise en question quand on est dans la présence de Dieu. Première chose, on se remet en question. On se souvient du verset où Jésus dit, lorsque tu veux donner ton offrande, quelle est la suite? Et que, est-ce qu'il y a quelqu'un volontaire pour nous dire la suite? Lorsque tu veux donner ton offrande et que, c'est-à-dire que tu peux être dans la présence de Dieu, mais avoir des problèmes avec des gens autour de toi, sans que ça te dérange. Mais Jésus dit maintenant, attention, puisque quand tu veux donner ton offrande, c'est-à-dire tu veux adorer Dieu, alors là, fais une remise en question. Et quand tu fais cette remise en question, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu es honnête, tu vas t'humilier. Si tu es honnête, pour dire, Seigneur, j'ai un problème dans mon cœur par rapport à telle personne. J'ai un problème contre telle personne. Et Jésus dit, quand tu te souviens maintenant, laisse ton offrande et va voir la personne. Troisième étape, la repentance. Je reprends. Quand on a la crainte de Dieu, on entre dans sa présence. Première chose, remise en question. Ça veut dire quoi? Méditer, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Vous savez, il y a des gens qui viennent de l'assemblée, puisqu'ils veulent voir un frère ou une sœur. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il y en a qui viennent puisqu'il a acheté un nouveau costume, de nouvelles chaussures. Il y en a qui viennent puisqu'il est programmé à la prédication, ou il est programmé au chant. Donc chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons. Mais bien aimé, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui, puisqu'au temps de Jésus, les gens suivaient aussi Jésus. Jésus leur disait, hein, vous me suivez puisque vous avez faim, vous voulez manger, vous voulez voir des miracles. Ce n'est pas nouveau. Et quand on vient dans la présence de Dieu, remise en question, qu'est-ce que je veux faire? Qui est Dieu? Comment je peux me présenter à lui? Le rendez-vous pour la prière, c'est 9h. Tu arrives à 9h30 sans problème. 10h en te disant, problème d'organisation, mais bien aimé. Soyons honnêtes. Lorsque tu dois commencer le boulot à 8h, à 7h30, 7h55, 8h moins le quart, tu es déjà au boulot. Et quand il s'agit de Dieu, c'est optionnel. Bien-aimé, c'est ça que nous voulons dire, c'est ça le respect pour Dieu. Et tout ce que je dis là, bien-aimé, puisque certains diront, ah oui, il est dur, oui, mais je me mets moi-même dedans, moi le premier, bien-aimé. Moi-même le premier. Vous imaginez que tu as rendez-vous avec monsieur le maire à 10h, tu arrives à 10h30, bien-aimé, soyons sérieux entre nous. Tu as rendez-vous avec monsieur le maire. À 10h, je pense que à 8h30, tu es déjà dans les parages. Hein. Tu es déjà dans les parages. À 8h30, tu tournes. Le temps de boire un petit café. Le temps de... Vous imaginez, on a rendez-vous avec notre Dieu. Comment tu te présentes dans sa présence? Excusez-moi la tautologie, la répétition. Alors tu prépares ça longtemps à l'avance, ce rendez-vous-là. Pour ceux qui sont le plus organisés, ils savent 2 jours avant, je mettrai ça, je mettrai ça, je mettrai ça. Tu as rendez-vous avec le Premier ministre ou avec le président? La cravate, tu as déjà bien choisi la cravate, tu as bien repassé. Donc, c'est pas la dernière minute, 5 minutes avant. Mais oui, non. Tu as déjà tout préparé à l'avance. Alors, vous imaginez comment nous, on se présente devant la présence de Dieu. Tu arrives en retard, parfois avec le chewing-gum, tu mâches. À l'école, nous, on a appris que mâcher le chewing-gum, dans la classe, c'est impoli. Mais vous imaginez à qui on a affaire? On a affaire à Dieu. Il y en a qui viennent parfois à casquette. Hein. Il y en a même dans le groupe de louanges aujourd'hui, les milieux chrétiens. Ah, il chante avec son bob. Hein. Un homme, il chante avec son bob. Bien-aimé, c'est... Bah, pourvu que le talent soit là, quoi. Tant qu'il a la voix, il pousse, il fait... c'est bon. Le deuxième, le publicain, a fait une remise en question. Il a dit non. Moi, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu comme ça, avec légèreté. Et il a été honnête pour dire à Dieu, non, moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Il s'est humilié. Bien-aimé, c'est ça. Quand on vient dans la présence de Dieu, on ne regarde pas aux autres, on regarde à soi. Et quand on regarde à soi, si on est honnête, on va toujours trouver quelque chose en nous que Dieu veut changer. C'est ça, bien-aimé, le respect pour Dieu. C'est ça, le respect pour Dieu, bien-aimé. Quand on a du respect pour Dieu, bien-aimé, on a du respect pour la parole, une considération pour la parole. Il y a un verset qui me vient, 1 Thessaloniciens 2.13, qu'on ne va pas lire, mais ceux qui notent, ils peuvent noter ça. 1 Thessaloniciens 2.13, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu continuellement de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons donnée, fait entendre, vous l'avez reçue comme la parole de Dieu et non celle des hommes. Bien-aimés, c'est quand on a du respect pour Dieu, vous savez, quand tu respectes, vous savez, il y a des corps de métier comme ça où le respect est important. Je parle du corps médical. Lorsque le médecin donne une instruction, l'infirmier, les aides-soignantes, les je ne sais pas qui sont en dessous encore, ben chacun s'exécute. Qui es-tu pour dire « Ah, mais non, le médecin s'est trompé ». Qui es-tu? Vous savez, dans l'armée, lorsqu'un ordre est donné, ben le chef a parlé, c'est tout. C'est tout. Et quand on a du respect pour Dieu, on considère la parole. On la considère avec respect. C'est ça, bien-aimé. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais la Bible, vous savez, elle a été écrite par des hommes. Et forcément, puisque ce sont les hommes qui ont écrit, il y a des erreurs, ils peuvent se tromper. D'ailleurs, il y a des contradictions. Bien-aimé, qui sommes-nous pour contester la parole de Dieu? Qui sommes-nous? Une fois, je discutais avec des chrétiens. Alors, on parlait d'Éphésiens 5, je ne sais plus de quoi on parlait. Après, on parlait, quelqu'un a posé la question sur la recommandation que Paul donne aux femmes, ensuite aux hommes. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, s'est sacrifié pour elle. Et il dit à la femme, femme, sois soumise à ton mari. Alors la personne, c'était une chrétienne, hein, une sœur. Hein. Ah non, jamais de la vie. Ça, c'est votre culture de l'Afrique. Ici, on est en Europe, bien aimée, chrétienne depuis 30 ans. Je peux vous dire que si elle vous raconte son CV, mais vous voyez, donc il y a des versets qu'on choisit. Celui-là, oui. Celui-là, non, ça ne cadre pas avec notre culture. Il faut vivre avec son temps, il faut évoluer, n'est-ce pas? Il faut vivre dans la tolérance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas avoir deux pasteurs, hommes, homosexuels, mariés. C'est ça, bien-aimé. Quand on a du respect, on va considérer. Tout ce que Dieu dit, on le prend avec sérieux. C'est ça, bien-aimé. Et parfois, quand c'est trop dur, bien aimé, vous savez, vaut mieux être humble. Il y a des gens qui vont dire, ah, ils exagèrent. On exagère avec la vérité dans cette église-là. On exagère avec... Bien aimé, moi je préfère hein, que quelqu'un exagère avec la vérité plutôt que quelqu'un soit laxiste. En tout cas, c'est ce que je préfère. Puisque le laxisme, vous savez, la chair n'est jamais satisfaite. Tu vas accepter un, tu vas accepter deux, tu vas accepter trois. Vous savez, ça ne commence pas d'aujourd'hui, ça a commencé depuis le jardin d'Éden où Satan est venu. Ève aurait dû être ferme pour dire non, Dieu a dit c'est tout. Bien aimé, mais quand les humains parlent comme ça, on dit, ah là là, ils sont trop durs. Mais Satan est venu comment? Il s'approche, il dit, ah, Ève, en plus il a été stratégique, hein, il n'est pas parti voir Adam, il est allé voir Ève. Pour dire, mais penses-tu vraiment? Es-tu vraiment certaine de ce que Dieu a dit? Est-ce que tu es sûr de toi? Vous savez, quand tu réponds à quelqu'un, la personne te regarde avec une neutralité, comme on dit hein, dans les jurys, neutralité bienveillante. C'est-à-dire que la personne ne fait pas paraître ce qu'elle pense. Tu réponds, la personne te demande pardon. Je peux te dire que là, tu vas réfléchir avant de... Parce que le pardon, là, ça veut dire, est-ce que tu es sûr de toi? Alors tu dis, mais est-ce que j'ai dit une grosse bêtise ou pas? Et là, Satan vient avec ruse, puisqu'on dit il est rusé. Dieu a-t-il vraiment dit? Et puis il rajoute, oh Dieu sait que si vous mangez le fruit de l'arbre interdit, mais vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Bien-aimé, vaut mieux être radical. Comme ça, le jour où tu sors de la voie, la parole est là. Les frères aussi sont là pour te ramener, pour te dire non, c'est comme ça. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, lorsque Jésus prêchait, il dit, il faut manger ma chair, il faut boire de mon sang. Mon sang est un breuvage. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Jean 6? Plusieurs se retirèrent. Ils se sont dit, non, mais non, là il exagère. Il exagère. Et Jésus va encore plus loin. Il dit aux apôtres, avec qui il mangeait et dormait, il dit, mais vous, pourquoi vous restez ici? Partez. Bien-aimé, vous imaginez aujourd'hui un pasteur qui vient, ou un frère, il dit aux gens, mais pourquoi vous venez ici? Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, il n'aime pas les gens. Oh, regarde comment il nous a parlé. Un jour, Jésus dit à la femme syrophénicienne dans Matthieu 15, il dit, On ne donne pas les choses saintes aux... Oh là là, bien-aimé. Je pense que là, il y aura un comité qui se met en place pour déposer plainte, pour dire là, non seulement il est raciste, Jésus, mais en plus, il nous traite de chiens. Mais vous savez, cette femme a dit oui, Seigneur. Mais nous, des petits chiens, on se contente des miettes. Oh, Jésus dit femme. Bien-aimé, notre thème ce matin, c'est le respect pour Dieu. Prenons exemple sur cette femme. Elle a respecté le Seigneur. Vous savez, la scène n'a pas commencé là. Hein. La scène a commencé avant. Elle parle à Jésus, les disciples lui disent, mais Seigneur, Jésus l'ignore. Vous rendez compte, tu parles à quelqu'un, la personne ne te répond pas. Tout de suite, ça y est, il m'a snobé. Ça y est, il m'a ignoré. Ça y est. Oh, ça peut être un oubli. Ça peut être aussi Dieu qui te brise. Tout de suite, procès. Jésus a ignoré une fois. Deuxième fois, il ignore encore. Et là, les disciples se disent, mais maître, puisque la femme te parle, tu ne réponds pas, donc ça veut dire qu'elle dérange. Alors, renvoie-la. Et c'est là que Jésus répond maintenant. Il enfonce encore le clou, vous savez, un coup de marteau en disant, J'ai été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël, pas à vous. La femme dit, s'il te plaît, fais quelque chose. Et c'est là maintenant Jésus met maintenant le dernier coup. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. La femme dit, Seigneur, tu as raison. Mais nous, les petits chiens, on prend même les miettes. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Qu'est-ce qui a fait que cette... Bien-aimée, il y a eu la foi, c'est vrai. Mais plus que la foi, le respect pour qui est Jésus. C'est ça que nous voulons dire, bien-aimés. Le respect. Qui est en face de moi, là? C'est le Seigneur. Peu importe ce qu'il me dira. Je continue à le respecter. Troisième point, quand on a du respect pour Dieu, bien-aimé, on ne s'attaque pas à Dieu. On ne s'attaque pas à Dieu. Vous savez, j'avais prévu qu'on lise, mais le temps qui file, nous en parlons. Ceux qui écrivent, ils peuvent écrire Job 2, 1 à 10. Satan se présente devant Dieu en disant, écoute, Dieu, tu as pris les enfants de Job, tu as pris ses brebis, tu as pris ses avoirs. Maintenant, passons à la vitesse supérieure. Peau pour peau, tout ce qu'un homme perd, eh ben, il ne reste pas dans le même état. Donc Satan part du postulat que si Dieu attaque la santé de Job, Job ne sera plus intègre. Qu'est-ce qui se passe? Job est frappé de quoi? Ulcère malin. Et on nous dit quoi? Il prend des tessons de bouteille pour se gratter. Bien-aimé, vous vous rendez compte de l'état de la personne? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La femme de Job vient et dit, non, monsieur, reprends-toi et au moins de l'honneur, quoi. Tu es un homme. Vous savez, parfois, il y a des femmes comme ça qui vont te piquer dans ta virilité, ta force d'homme. Il dit, mais beaucoup d'hommes ont fait des bêtises comme ça. La femme va chercher des problèmes à gauche, à droite. Tiens, tu vas me défendre. Voilà, tu rentres dans des problèmes puisque tu as voulu montrer que c'est toi le caïd. La femme dit à Job, mais non. Tu restes intègre. Maudit Dieu. Parce que, attendez, on va expliquer. Tu souffres déjà. Alors, puisque tu souffres déjà, maudit Dieu. Et quand tu maudiras Dieu, Dieu aura maintenant une bonne raison pour te tuer. Comme ça, tes souffrances sont finies. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas écrit, mais c'est mon interprétation. Puisque tu souffres déjà, tu es déjà comme ça, comme une loque. Maudit Dieu, au moins, il te frappera pour quelque chose. Et là, tes souffrances sont finies. Job dit à sa femme, oh, tu parles comme un insensé. Bien-aimé, vous savez, quelqu'un qui a du respect pour Dieu, c'est ça notre troisième point. Il y a des limites qu'il ne va pas franchir en considérant Dieu. Les gens viendront te dire, il est où ton Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Depuis que tu es chrétien, regarde les païens, regarde ce qu'ils font. Regarde comment ils avancent. On se rappelle du psaume 73, Asaph. Il dit, mes pieds étaient sur le pied de flancher, de glisser. Lorsque je portais envie aux insensés, aux méchants. Il dit, j'ai voulu parler comme eux, faire comme eux, mais je trahirai la race des enfants de Dieu. Il dit en quelque sorte, j'ai atteint ma limite. J'ai voulu faire comme les autres, mais non, je ne peux pas faire ça. Et la femme de Job dit à Job, attaque-toi à Dieu, puisque c'est lui qui... Si tu souffres, c'est lui qui est l'auteur de tes souffrances. Job dit non. Nu, je suis venu. Nu, je retournerai. Il dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Bon, que son nom soit béni, ce n'est pas écrit, mais l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est ça, bien-aimé, quand on a du respect pour Dieu, même s'il y a des choses qui peuvent nous pousser à nous révolter, bien-aimé, restons calmes. Restons calmes. Vous savez, un homme comme Joseph qui a eu des promesses, tu te retrouves mis dans une citerne. Vous imaginez dans une citerne. Comment tu fais pour respirer dans ce noir-là et puis au Moyen-Orient, certainement qu'il faisait très chaud. Ensuite, après ça, tu es vendu comme esclave. Tu es même accusé de viol. Vous savez, il y a des situations où on se dit, mais pourquoi croire en Dieu? Et c'est là qu'une pensée te vient pour te dire, bon, allez, vas-y. Abandonne Dieu. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Quand on a du respect pour Dieu, non. Job a dit non. Même si je ne comprends pas tout, je reste à ma place. Lui, il est à sa place. Vous savez, c'est ce qu'un homme a compris, hein, David. David était pourchassé avant par Saül. Il arrive à obtenir le trône. Il est pourchassé par Absalom, son fils. Et dans sa fuite, il va même chez les ennemis. Et un jour, pendant qu'il marche, il rencontre Shimei qui se moque de lui, qui crache. Bien-aimé, vous vous rendez compte, il est roi. Un individu tout seul qui vient, qui crache sur toi, qui prend la poussière, qui jette et dit, voilà, tu es maudit. Tu es maudit. Et un des fils de Tseruja dit à David, mais laisse-moi régler le compte de ce chien mort. David dit, mais qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? Mon propre fils en veut à ma vie. Alors pourquoi je vais m'offusquer de ce que cet individu puisse m'insulter comme ça? Il dit, qui m'insulte? Que ma souffrance devienne grande. Comme ça, Dieu aura peut-être pitié de moi. Bien-aimé, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le respect pour Dieu, bien-aimé. Il y a des situations dans lesquelles on se retrouve, où on a envie de se rebeller, mais on se dit, non, peut-être que dans ma souffrance, Dieu aura pitié. C'est ça, bien-aimé, quand on a du respect pour Dieu. Il y a des limites qu'on ne va pas franchir. Il y a des chrétiens pour un oui pour un non. Il est prêt à divorcer par colère, par orgueil, par autosatisfaction. Pour dire en quelque sorte, Dieu a mal fait les choses. Maintenant, je me prends en main. Il y a des limites, bien-aimés, à ne pas franchir quand on a du respect pour Dieu. Mon dernier point, c'est que mon quatrième point, vous savez, même si notre foi baisse, quelqu'un qui a du respect pour Dieu va continuer à croire en ses promesses. À croire que Dieu peut agir. Vous savez, dans Luc, au chapitre 7, on nous parle du centenier romain qui vient voir Jésus. Il envoie des gens pour dire, allez voir votre maître, mon serviteur est mourant. Et quand les gens arrivent vers le Seigneur, ils disent, maître, il mérite que tu lui fasses quelque chose puisque il nous a aidés à construire la synagogue. Il a été bienveillant envers nous. Et pendant qu'il parle au maître, le monsieur arrive. Jésus se déplace pour aller chez lui. Il dit, non, maître, regarde, reste là. Parce que toi, tu es juif. Plus que cela, tu es docteur de la loi, tu es enseignant de la parole de Dieu. Ben, si tu entres chez moi, tu vas te souiller, tu vas te salir. Par contre, je sais une chose, c'est que moi qui suis centenier, lorsque je donne un ordre, je sais que mes hommes vont s'exécuter. Alors toi aussi, tu peux parler et mon servir. Bien-aimé, vous voyez, quelquefois, on n'a plus la foi, ou la foi baisse, mais bien-aimé, quelqu'un qui a du respect pour Dieu, il va se souvenir ce qu'on a dit en introduction. Seigneur, il suffit que tu dises une chose. Il suffit que tu dises une parole. Puisque moi, je n'ai pas de force. Oui, et je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu même. Mais en réalité, Seigneur, la foi que j'ai, elle vient de toi. C'est ça, bien-aimé. La foi vient, Romains 10, 17, de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ même, on nous dit. Pas de Dieu, on nous dit de la parole de Christ. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu as du respect pour Christ, quand tu as du respect pour Jésus, quand tu as du respect pour Dieu, ça fait naître en toi la foi. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ce qu'on a dit hein, dans l'histoire de la femme syrophénicienne. Elle n'avait pas tout compris. Mais tout ce qu'elle savait, c'est que non, il faut que je respecte cet homme, puisque ma fille, qui est tourmentée par un démon, il n'y a que lui qui puisse agir. Alors elle a accepté qu'on la traite de chien. Et Jésus dit quoi? Femme, ta foi est grande. Qu'est-ce qu'il dit du centenier romain? Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu. Bien-aimé, vous voyez le lien? Quand on a du respect pour Dieu, on gardera la foi, la confiance. Je dis bien, même si, vous savez, il y a des situations où on sait qu'on a la foi, on chante, on dit ah, au nom de Jésus, sans effet, on a. Mais il y a des situations où même le sans effet, là, tu n'as pas la force, c'est, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, les gens te demandent, ça va? Tu te mets à pleurer. Bien aimé, ce sont des réalités. Comment ça va? Tu te mets à pleurer. Mais le conseil d'aujourd'hui, c'est garde au moins le respect pour Dieu. Puisque quand tu considères qui est Dieu, tu sais qu'il suffit qu'il dise une parole. Et la chose change. C'est ça, bien-aimé. Des gens comme Joseph, qu'est-ce qu'il fait que malgré tout ce qu'il a vécu, il est resté correct vis-à-vis de Dieu? Tu me diras, il avait la foi. Oui, il avait la foi. Mais il est arrivé aussi un jour qu'il dise à les chansons, « Mon ami, s'il te plaît, quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Et l'ami l'a oublié. Mais ce que Joseph a gardé, c'est le respect pour l'Éternel. Le fait que Dieu, de savoir que Dieu est Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pharaon fait un songe et il fait appeler Joseph. C'est ça, bien-aimé, que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Vous savez, Aman, on va finir là, dans le livre d'Esther, a réussi à faire un complot. Ils ont signé le décret. Il a fait signer au roi le décret en disant que tous les Juifs doivent être exterminés puisqu'ils refusent de s'humilier. Et quand il dit tous les Juifs, en réalité, il s'agissait que d'un seul de Mardoché. Le décret est signé. Et Mardoché continue de ne pas se prosterner devant Aman. Alors Aman va voir Zérech. Zérech, c'est sa femme et ses conseillers pour dire, mais qu'est-ce que je peux faire à ce juif-là pour le punir? Sa femme lui dit, écoute, construis une bonne potence de 50 coudées, donc en traduction, 25 mètres. Vous vous rendez compte? Un poteau de 25 mètres de haut. fabrique ça, comme ça, on va pendre Mardoché dessus. Et comme c'est 25 mètres, vous savez, c'est tellement haut hein, que tout le monde verra. Là, celui-même qui est au marché à je ne sais pas combien de kilomètres, il verra. Haman dit, ah, ça c'est une très bonne idée. Il fabrique la potence. Et vous savez, entre-temps, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le roi n'arrive pas à dormir. Il se souvient qu'un jour, des années auparavant, Mardoché a déjoué un complot contre lui. Il dit à ces gens, mais qu'est devenu Mardoché? Il dit, non, il est toujours là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a eu du fait qu'il ait déjoué le projet contre le roi? Il dit, mais il n'a rien eu. Il dit, écoutez, faites venir cet homme-là. Et il fait venir aussi Aman. Il pose la question à Aman, mais qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut élever? Ben, Aman se dit, naturellement, c'est moi. Il dit, bon, il faut le faire promener dans la ville, il faut que tout le monde voit, que les gens chantent, que c'est... Le roi dit, ok, tout ce que tu as dit là, tu vas faire ça pour Mardoché. Bien-aimé, ce que nous voulons dire, c'est que il peut arriver qu'on ait l'impression que c'est trop tard. Il n'y a même plus besoin d'espérer. Mais vous voyez, Mardoché, même si le décret était signé, il est allé voir quand même Esther pour lui dire, écoute Esther, viens nous en aide, Esther a peur. Il dit, ben, sache que si tu ne nous viens pas en aide, Dieu nous aidera, mais toi, tu périras. Et il a continué à prier. Vous voyez, bien-aimé, ce n'est même pas Esther qui est allée changer les choses. Dieu lui-même a parlé au roi. Puisque Esther, après, oui, bien sûr, elle va demander, oui, je veux une fête, qu'on invite Mardoché. Ça, c'est après. Mais, en réalité, les choses commencent comment? Dieu lui-même a touché le roi. C'est pour nous dire, bien-aimé, que même si tu penses que tout est plié, le décret est signé, Dieu peut parler à celui qui a signé le décret pour changer les choses. Mais tout parle de quoi? Du respect pour Dieu. Croire que Dieu est au-dessus de moi. C'est ça, bien-aimé, notre exhortation d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, est-ce que je considère Dieu à sa juste valeur? Est-ce que j'ai du respect pour Dieu? Est-ce que j'estime que mes malheurs, c'est la faute d'un tel? C'est la faute d'un tel? C'est la faute d'un tel? Ou est-ce que je m'humilie comme le publicain qui est venu devant Dieu pour dire « Dieu, ne tiens pas compte de ma justice puisque je suis un homme pécheur. Par contre, moi, je compte sur ta miséricorde. » Comme le brigand à la croix qui a dit à son ami, « Crains Dieu et du respect pour Dieu. » Bien-aimé, c'est ça notre exhortation de ce matin. Que le Seigneur nous aide à le considérer tel qu'il est. Arrêtons de nous justifier. Arrêtons de dire oui, mais non, non. Quand on a du respect pour Dieu, on accepte ce que Dieu nous dit. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Et Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à considérer qui tu es, Seigneur. Que la parole de ce brigand qui reprend son ami puisse nous exhorter, Seigneur, aujourd'hui. Combien de fois, Seigneur, nous nous sommes comportés comme si, Seigneur, nous étions forts, comme si nous étions grands. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à avoir du respect pour toi, Seigneur. Même quand nous avons l'impression que tout est contre nous, Seigneur, que nous puissions garder le respect pour toi. toi, tu te révéleras à nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta parole de ce matin et nous prions pour que ton esprit, Seigneur, puisse continuer à nous parler, à moi le premier, Seigneur. Peut-être les choses qui ont été mal dites, Seigneur, ou des choses qui ont été dites qui ont dérangé, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que ton esprit puisse agir dans nos cœurs au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est la vérité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc les annonces particulières, c'est que nous nous retrouvons le